Radio Okapi.
Babel Pongo Massimango pour les journaux.
Okapi.
Bonjour, elle a finalement pris fin, la grève des infirmiers. C'est après des négociations avec le gouvernement. Dans ce journal, le président de l'intersyndicat de la santé du Congo apporte des détails sur l'accord trouvé entre les deux parties. La présence de l'armée régulière dans Ikobo, c'est le plaidoyer des notables de ce groupement de Walikale au Nord Kivu. Ils sont sous le joug des FDLR depuis 15 ans déjà. Et aujourd'hui, 24 novembre 2015, c'est le cinquantenaire de la prise du pouvoir par les deux fins présidents Mobutu. À cette occasion, l'UDEMO lance un appel au nationalisme, valeur qui, d'après elle, incarnait le maréchal Mobutu. Vous suivrez son secrétaire général, Bernard Pierre Bindo. Fin de la grève des infirmiers. Cela intervient après des négociations qui auront duré près d'une semaine, en croit le président de l'intersyndicat de la santé du Congo. Les pourparlers ont mis autour de la table le gouvernement et la délégation des grévistes. La même source indique qu'à l'issue des discussions, un protocole d'accord a été signé et une commission de suivi mise sur pied. Jacques Kizemba est le président de l'intersyndicat de la santé du Congo. Il s'exprime sur la fin de la grève au téléphone d'Askenzik Batayoro.
Le protocole d'accord reconnaît les revendications que nous avons envoyées au gouvernement. Le gouvernement est engagé à répondre à nos revendications. Les moyens qui seront réunis serviront à l'augmentation de la prime de risque par rapport aux simulations. Et ça se fera progressivement. Vous savez que nous sommes à 117 000, bien que ceux qui sont payés, 117 150. Et là, ce sont les pro-santé et les administratifs. Il y a aussi les L2 pro-santé, qui n'auront pas le même montant que nous parce que nous n'avons pas la même base. Et les moins payés, ce sont ceux qui étaient dehors, les pro-santé et administratifs. Ces protocoles d'accord nous sécurisent. Nous, de notre côté, nous avons accepté de lever la grève. C'est pour permettre au gouvernement d'avoir confiance à la partie syndicale. Nous aussi, nous sommes en train de voir la bonne foi du gouvernement.
Sur le plan sécuritaire, nous reparlons du territoire de Walikale dans le Nord Kivu. Les notables du groupement Ikobo réclament la présence des forces armées de la RDC dans leur entité. Cela fait 15 ans que les 6 localités et 11 villages d'Ikobo sont essentiellement administrés par les FDLR, avec comme conséquence de graves violations de droits de l'homme et des affrontements récurrents entre ces combattants rwandais et certains groupes Maïmaï, ce qui oblige souvent les populations à se déplacer. Chez Alkaj, nous brosse la situation d'Ikobo.
Cela fait plus de 15 ans qu'il n'y a pas eu la présence des FARDC dans le groupement Ikobo. Ce sont les FDLR qui administrent les localités et le village du groupement. Ils font payer différentes taxes aux habitants, tranchent les conflits devant leurs propres tribunaux, nomment et révoquent des chefs de village ou des localités, exploitent du bois ainsi que certains minerais. Tout ceci à cause de l'absence de l'autorité de l'État depuis plusieurs années, disent nos sources. Et pour libérer les populations des Ikobo du joug des FDLR, ce sont les Maïmaï qui ont d'ailleurs avenue de Lubero, ainsi que les Maïmaï NDC rénovés du chef rebelle Guidon Mouissa de Walikale qui se présente en libérateur. Depuis 2 semaines en effet, cette coalition traque ses FDLR. Ainsi, depuis dimanche dernier, le FDLR ont été chassés de Bouleoussa, Katekou, Kanoun et Bukumbiroa, où les populations étaient prises en otage pendant une semaine par ce rebelle rwandais. Mais pour le chef coutumier, seule la présence de militaires à Ikobo peut ramener la paix dans cette entité. Le gouverneur de province, Julien Paloukou, souligne que des propositions ont déjà été faites au FRDC à ce sujet. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Dans l'autre Kivu, le sud, les groupes armés tentent de se réorganiser principalement dans les territoires de Calais et Chabunda. Différents groupes armés constituent une coalition avec comme objectif de s'attaquer au FRDC. En effet, les opérations militaires menées par l'armée contre les forces négatives dans une majeure partie du territoire de Chabunda dérangent les seigneurs de guerre. Une réunion qui a regroupé les leaders de 5 principaux groupes Rayamo Tomboki s'est tenue samedi passé à Nyambembe dans Chabunda. Une autre réunion s'est tenue le même jour à Calais avec la milice Nyatura coalisée au FDLR. La société civile de Mounia qui se dit inquiète suite au nombre réduit des militaires FRDC dans ce milieu. Jean Castamy nous en dit plus.
Cette série de réunions tenues le week-end dernier dans le but de permettre aux milices de se constituer en un groupe armé plus homogène et dynamique pour affronter militairement les FRDC connaît l'adhésion d'une dizaine de mouvements. Des sources de l'opération Sokol à 2 l'on indique qu'une telle coalition ne va pas empêcher la poursuite des opérations FRDC contre les groupes armés. La société civile de Chabunda atteste que le FRDC traque sérieusement les forces négatives et elles sont en détresse sur l'axe Nyambembe, Kigulube, Biangama, Kachungu. À Chabunda, le FRDC prenne le dessus sur les groupes armés, mais à Kalehe, la société civile s'inquiète. Les effectifs des FRDC ne rassurent pas la population que l'armée régulière saurait intervenir à temps réel au cas où les Nyatura et leurs alliés concrétisent leurs menaces d'attaque sur Lumbishi et Numbi, des localités au nord du territoire de Kalehe. C'est principalement les zones minières qui sont visées par ces groupes armés et leurs alliés. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et dans l'Ex-Katanga, la communauté socioculturelle Luanzo Lwamikuba, une communauté qui s'insurge contre la fusion du district de Kolwezi et celui du Lualaba en une province, reliant la charge. Dans une lettre adressée aux représentants de la MONUSCO, le président de cette organisation plaide pour la réouverture du bureau de la MONUSCO à Kolwezi. Selon René Lumunu, l'éloignement de la MONUSCO représente un risque accru de violation de droits de l'homme. Il l'a dit à Nui Kabina.
Après le départ de la MONUSCO, en décembre 2014, on a organisé une marche pacifique pour revendiquer que Kolwezi soit une province, qu'on ne fusionne pas. Au cours de cette marche là-bas, nous étions entourés par la police. On a tué un Mantangamou, mais jusqu'aujourd'hui, le dossier se trouve à la cour de domicile de Lubumbashi. Il n'y a pas de solution. Actuellement, aujourd'hui, nous comptons amorcer une marche pacifique pour continuer à protester parce que nous sommes à la même opinion. Alors, nous craignons qu'il y a risque qu'on puisse monter nous empêcher par la force, par tous les moyens.
Est-ce que vous pensez que la MONUSCO intervenait beaucoup plus pour les sujets de l'ONU? Lwamikuba, parce que tout simplement vous êtes meurtri?
Non, la MONUSCO intervient pour tout le monde. Moi je connais plusieurs cas, je ne l'ai pas cité ici. La MONUSCO jouait quand même un rôle pour apaiser. Elle faisait ses patrouilles là-bas, aller vers Mouchacha, aller vers Louboudi. Elle temporisait quand même les donations. Il y avait peur de l'autorité de la place pour faire n'importe quoi. Et pourquoi? Nous pensons que la MONUSCO est très intéressante pour qu'elle soit apologie, d'aider quand même la population d'écologie en matière de droits de l'homme.
Jour pour jour, nous commémorons ce mardi 24 novembre 2015 le cinquantenaire de la prise de pouvoir par le défunt président Mobutu. C'était le 24 novembre 1965. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de l'UDEMO, Union des démocrates mobutistes, appelé Congolais au nationalisme, valeur qui, d'après le député national Bernard Biandosango, incarnait le maréchal Mobutu. Dans un point de presse tenu hier à Kinshasa, cet élu de Mobimbongo a insisté sur l'importance de la commémoration de cette journée en vue de pérenniser les acquis de l'élu. Disparu. Bernard Biandosango parle justement de ses acquis au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Cette prise de pouvoir a permis à ce qu'il restaure l'autorité de l'État, qu'il remette la paix et que le peuple zaïrois à l'époque vive dans la convivialité en tant qu'État respectable. Tout ce que nous savons, que c'est sous le maréchal Mobutu qu'un zaïr valait 2 dollars. Mobutu a réalisé beaucoup de bonnes choses et nous savons que à l'accession de notre indépendance, quand les Belges sont partis, le Congo était pratiquement un vaste chantier. La nationale numéro 1, Kinshasa Matadi et Kinshasa Bandundu par exemple, c'est le maréchal Mobutu qui l'a forgé. Le boulevard Lumumba même, le boulevard 30 juin avait une seule bande, c'est le maréchal Mobutu qui en a créé les deux bandes et qu'aujourd'hui on a pu juste l'élargir. Mobutu était un vrai nationaliste parce que même son discours en 1973 à l'ONU le montrait. Mobutu aimait son pays et sous Mobutu, aucun pays ne pouvait se permettre d'agresser le Congo. D'ailleurs, on l'a même accusé de la zéranisation, mais je pense que le but réel de cette réforme, il voulait donner la chance aux nationaux eux-mêmes de pouvoir prendre leur destinée économique en main. Mais malheureusement, ça n'a pas marché.
Parlons à présent de cette bonne nouvelle pour les Kinois. Matata Ponyo annonce la réhabilitation de l'avenue Bypass. Il s'agit du tronçon construit entre le quartier Salongo dans la commune de Lemba et la cité verte dans la commune de Selembao. Le Premier ministre l'a annoncé hier lors d'une descente sur terrain dans cette partie de la capitale. Et en parlant des routes, cette grande question, comment faire face aux besoins d'entretien de routes africaines? Et voilà la problématique que veut résoudre chacun des 35 pays africains qui participent depuis hier à la 14e Assemblée Générale de leur fonds d'entretien routier organisé à Kinshasa. Parmi ces pays figurent la RDC, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Gabon, encore le Madagascar. Ils réfléchissent notamment sur comment rendre plus efficace ce fonds respectif et la réflexion tourne entre autres autour de la manière dont il faut utiliser rationnellement les faibles ressources dont ils disposent souvent. Mais de quoi s'agit-il vraiment dans cette problématique d'entretien routier africain et quelle est l'ampleur du problème à ce jour? Tentative de réponse dans cette cartographie de Dona Madimba.
Première indication, selon les statistiques officielles, les routes africaines ont besoin pour chaque année et pour tout le continent de mobiliser une enveloppe d'environ 10 milliards de dollars américains pour les enjeux de la route, alors que les dépenses jusqu'ici effectuées atteignent à peine 6 milliards. La RDC, pour son cas, reconnaît par exemple que son propre investissement pour les besoins de la route atteint à peine 10% du montant souhaité, soit 1 milliard de dollars, dont la moitié de cette enveloppe provient des partenaires extérieurs. Le secteur privé est presque absent de cet effort, avec une contribution africaine estimée à 0,1%. Les routes à péage n'attirent pas non plus, avec 10% à peine du trafic journalier dans l'ensemble du continent, au lieu de 15 000 passages jour estimés, dont 3 000 à peine pour la RDC. Les statistiques soutiennent que les pays d'Afrique subsaharienne dépensent 2 à 3 fois plus que les pays développés pour les besoins de la route, et que les plus pauvres parmi eux font même des dépenses astrologiques. Ces données reconnaissent enfin que seule l'Afrique du Sud et le Nigeria sont à ce jour les deux seuls pays qui arrivent à rentabiliser avec satisfaction leurs routes à péage.
Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de votre attention. Les informations sportives sont à suivre juste après.
Okapi.
Okapi.
Allô, Okapi.